Chapitre 16. En exécution de cet ordre de l'empereur Nicolas, dès janvier 1852, une incursion fut entreprise dans la Tchétchnia. Le détachement envoyé en incursion était composé de 4 bataillons d'infanterie, 2 sotnias de cosaques et 8 canons. Cette colonne marchait au milieu de la route, et de chaque côté de la colonne s'échelonnait une chaîne ininterrompue, tantôt descendant, tantôt montant les côtes, de chasseurs en hautes bottes et pelisses courtes. Coiffés d'un bonnet de fourrure, le fusil sur l'épaule et les cartouches en bandoulière. Comme toujours, en s'avançant en terrain ennemi, le détachement observait le plus grand silence. De temps en temps seulement résonnait le bronze des canons secoués par les ornières, ou s'ébrouait ou hennissait un cheval qui ne comprenait pas l'ordre de marcher en silence, ou un chef, mécontent d'un de ses subordonnés, criait d'une voix rauque, retenue, parce que la chaîne était trop lâche ou marchait trop près ou trop loin de la colonne. Une seule fois seulement, une certaine agitation bruyante s'était produite, et cela parce que près d'un buisson d'ajon, qui se trouvait entre la chaîne et la colonne, avait pondu une chèvre au ventre blanc et au dos gris, et un bouc de même couleur, avec de petites cornes recourbées en arrière. Les beaux et craintifs animaux, en repliant leurs pattes de devant, fuyaient à toute vitesse, et ils passèrent si près de la colonne qu'un certain nombre de soldats, en riant et criant, les poursuivirent avec l'intention de les tuer à la baïonnette. Mais les chèvres, se détournant, réussirent à se frayer un chemin à travers la chaîne, et, poursuivis par quelques cavaliers et par les chiens de la compagnie, comme des oiseaux, disparurent dans les montagnes. C'était l'hiver encore, mais le soleil commençait à monter assez haut, et à midi, quand le détachement qui était sorti de bonne heure avait déjà parcouru 4 verstes, il était très chaud, et ses rayons étaient si vifs qu'on avait mal à regarder l'acier des baïonnettes et les étincelles qui, tout d'un coup, paraissaient sur le cuivre des canons comme de petits soleils. Derrière, il y avait une petite rivière rapide, claire, que le détachement venait de traverser. Devant s'étendaient des champs labourés et des prairies, et plus loin, les mystérieuses montagnes noires couvertes de forêts. Au-delà des montagnes sombres, d'autres se dessinaient encore, et plus loin, tout en haut de l'horizon, se dressaient toujours belles, toujours changeantes, toujours jouant avec la lumière, comme le diamant, la montagne aux neiges éternelles. Devant la 5e compagnie marchait, en tunique noire et bonnet de fourrure, le porte-épée en sautoir, un bel officier, Butler, qui, de la garde, était passé à l'armée du Caucase. Il éprouvait ce sentiment excitant de la joie de vivre et en même temps du danger de la mort, du désir de l'activité et de la conscience de participer à quelque chose d'énorme, dirigé par une seule volonté. Butler, ce jour-là, allait pour la 2e fois au combat. Et il se disait que, voilà, tout de suite, on allait commencer à tirer sur eux, et que lui, non seulement ne baisserait pas la tête devant l'obus qui volerait vers lui, ou ne ferait pas attention au sifflement des balles, mais que, comme cela lui était déjà arrivé, il redresserait la tête, et le sourire dans les yeux, regarderait ses camarades et les soldats et leur parlerait de la voix la plus tranquille de quelque chose d'indifférent. Le détachement quitta la grande route et s'engagea dans un chemin peu fréquenté qui traversait les champs de maïs et se rapprochait de la forêt. Bientôt, sans qu'on ait vu d'où il venait, avec un sifflement sinistre, un obus vola et vint tomber au milieu du train des équipages, près de la route, dans le champ de maïs en labourant le sol. « Ça commence !» dit Butler en souriant gaiement aux camarades qui marchaient à côté de lui. Et en effet, après l'obus, se montra, sortant de la forêt, une foule compacte de Tchétchènes à cheval avec leurs insignes. Au milieu de cette foule se dressait un grand insigne vert, et le vieux caporal de la compagnie, qui voyait très loin, dit au myope Butler que c'était probablement Chamil lui-même. Une partie des Tchétchènes descendit au bas de la montagne, puis se montra sur la crête d'un ravin qui était à droite et commença à le descendre. Un général de petite taille, en tunique noire, chaude et bonnet de fourrure qui montait un grand tamblier blanc, ordonna à Butler de se porter à droite contre les cavaliers qui descendaient. Butler conduisit rapidement sa compagnie dans la direction indiquée, mais avant qu'il ait eu le temps d'arriver jusqu'au ravin, derrière lui, il entendit, l'un après l'autre, 2 coups de canon. Il se retourna. Deux nuages de fumée blanche se soulevaient au-dessus des deux canons et longeaient le ravin. L'ennemi, qui évidemment avait compté sans l'artillerie, battit en retraite. La compagnie de Butler se mit à tirer sur les montagnards et toute la vallée se remplit de la fumée de la poudre. Et ce n'était qu'au-dessus du ravin qu'on percevait les montagnards qui se retiraient hâtivement en tirant sur les Cosaques qui les poursuivaient. Le détachement s'avança dans la montagne et dans le creux de la vallée, ils découvrirent un aoul. Butler, avec sa compagnie, courant à la suite des Cosaques, entra dans l'aoul. Il était absolument désert. On ordonna aux soldats d'incendier le blé, le foin, les cabanes elles-mêmes, et sur tout l'aoul se répandit une fumée âcre dans laquelle s'apercevaient les soldats qui retiraient des cabanes ce qu'ils y trouvaient, et principalement attraper et tuer les poules que les montagnards n'avaient pas réussi à emporter. Les officiers s'installèrent un peu à l'écart de la houle et déjeunèrent et burent du vin. Le caporal leur apporta sur une planche quelques rayons de miel. On n'entendait pas du tout les Tchétchènes. Un peu après midi, on donna l'ordre de se retirer. La compagnie se rangea en colonne derrière la houle et Butler se trouva à l'arrière-garde. Aussitôt que les Russes se mirent en route, les Tchétchènes se montrèrent de nouveau et poursuivirent la compagnie en tirant sur elle des coups de feu. Quand le détachement se trouva en terrain découvert, les montagnards se retirèrent. Butler n'avait pas de blessés et il se sentait dans la disposition la plus gaie et la plus réconfortante. Après que le détachement eut passé à gué la rivière traversée le matin, les soldats se répandirent sur les champs de maïs et les prairies, et les chanteurs de chaque compagnie se groupèrent en avant et les chants retentirent. « Regardez, regardez, les chasseurs !» chantaient les soldats. Et sous cette musique, le cheval de Butler marchait d'un pas allègre. Le chien de la compagnie, Trésorka, un chien poilu, gris, la queue relevée, avec l'air soucieux d'un chef, courait devant les soldats de Butler. Quant à celui-ci, il sentait dans son âme le courage calme et la gaieté. La guerre se présentait à lui sous un seul aspect. Il se soumettait au danger, à la possibilité de la mort. Par conséquent, il méritait une récompense et le respect de ses camarades d'ici ainsi que de ses amis de Russie. L'autre aspect de la guerre, la mort, les blessures des soldats, des officiers, des montagnards, quelque étrange que cela semble, ne se présentait pas à son imagination. Et même inconsciemment, il ne regardait jamais ni les tués ni les blessés pour n'avoir devant soi que l'image poétique qu'il s'était faite de la guerre. Ainsi, ce jour-là, les Russes eurent 3 tués et 12 blessés. Il passa devant les cadavres, qui étaient étendus sur le dos, et ne regarda que d'un seul œil une poitrine étrange, des mains cireuses, une tache sombre, rougeâtre sur la tête, et ne s'arrêta pas pour les examiner. Les montagnards, eux, ne se présentaient à lui que comme des cavaliers desquels il fallait se défendre. « Alors, voilà ce que c'est, mon cher, » lui dit le major, profitant d'un silence entre deux chansons. « Ce n'est pas comme chez vous, à Pétersbourg. Par le flanc droit, par le flanc gauche, vous allez travailler, et après, à la maison, notre mari nous sert un gâteau, de la bonne soupe. Voilà la vie, n'est-ce pas ? Eh bien, quand l'aube parut, commanda-t-il au soldat. C'était sa chanson préférée. Il n'y avait pas de vent. L'air était frais, pur et si transparent que la montagne de neige qui se trouvait à une centaine de verstes paraissait toute proche. Et quand les chasseurs se taisaient, on entendait le bruit régulier des pas des soldats et le cliquetis des armes qui semblait un fond sur lequel commençait et s'arrêtait la chanson. La chanson que chantait la 5e compagnie, celle de Butler, avait été composée par un Junker à la gloire du régiment, et se chantait sur un motif de danse avec le refrain « c'est autre chose, les chasseurs, les chasseurs ». Butler fit avancer son cheval à côté de son chef hiérarchique, le major Petrov, chez lequel il demeurait, et il ne pouvait assez se réjouir de sa décision de sortir de la garde et d'aller au Caucase. La raison principale qu'il avait fait quitter la garde était qu'il avait perdu aux cartes, à Pétersbourg, une somme telle qu'il ne lui restait plus rien. Il avait eu peur de n'avoir pas la force de résister à la tentation du jeu en restant à la garde. Or, il n'y avait plus rien à perdre. Maintenant, tout cela était terminé. Il y avait une autre vie, et une vie belle, courageuse. Maintenant, il avait complètement oublié sa ruine et ses dettes impayées. Le Caucase, la guerre, les soldats, les officiers, l'ivrogne, brave et courageux major Petrov, tout cela lui semblait maintenant si bien que parfois il ne pouvait croire qu'il n'était plus à Pétersbourg, ou dans cette salle enfumée où il pontait, plein de haine pour le croupier et sentant une douleur qui lui meurtrissait la tête, mais qu'il était ici, dans ce pays merveilleux, parmi ces braves Caucasiens. Le major vivait maritalement avec la fille d'un infirmier, qu'on appela d'abord tout simplement Marie, et ensuite Marie Dmitrievna. Marie Dmitrievna était une belle fille blonde, au visage couvert de taches de rousseur, âgée d'environ 30 ans et sans enfant. Quel qu'ait été son passé, maintenant elle était la compagne fidèle du major, qu'elle soignait comme une nounou, ce qui était nécessaire au major, car souvent il s'enivrait jusqu'à perdre conscience. Quand on fut de retour à la forteresse, tout se passa comme l'avait prévu le major. Marie Dmitrievna lui servit, ainsi qu'à Butler et à 2 autres officiers du détachement, un bon dîner réconfortant. Et le major but et mangea tellement qu'il ne pouvait plus parler, et alla dormir dans sa chambre. Butler, fatigué aussi, mais content, et qui avait bu un peu trop de vin du pays, alla aussi dans sa chambre, et à peine s'était-il déshabillé, et avait-il appuyé sur la paume de sa main sa belle tête bouclée, qu'il s'endormit d'un profond sommeil sans rêve ni réveil. Chapitre 17. La houle détruite par l'incursion était ce même Aoul où Hadji Mourad avait passé la nuit avant son ralliement aux Russes. Sado, chez qui s'était arrêté Hadji Mourad, s'apprêtait à partir avec sa famille dans la montagne au moment où les Russes s'approchèrent. Quand Sado retourna dans son aoul, il trouva sa cabane détruite, le toit enfoncé, la porte et le poteau de la galerie brûlés et tout l'intérieur souillé. Et son fils, ce beau garçon aux yeux brillants qui regardait avec enthousiasme Hadji Mourad, était apporté mort à la mosquée sur un cheval bai. Il avait été transpercé d'un coup de baïonnette dans le dos. La femme à la mine à corte qui avait servi le repas lors de la visite de Hadji Mourad, maintenant vêtue d'une chemise déchirée sur la poitrine, découvrant ses seins vieillis, pendant, les cheveux défaits, était penchée sur le cadavre de son fils, et se déchirant jusqu'au sang le visage, ne cessait de hurler sa douleur. Sado, prenant une pelle et une pioche, alla avec ses parents creuser la tombe de son fils. Le vieux grand-père était assis près du mur de la cabane démolie. Il tailladait une petite baguette en regardant stupidement devant lui. Il venait de retourner de son rucher. Les 2 meules de foin qui se trouvaient là-bas avaient été incendiées. Les abricotiers, les cerisiers qu'il avait plantés et soignés étaient brisés et brûlés, brûlés également ses ruches avec ses abeilles. De tous côtés s'entendaient les hurlements des femmes, les jeunes enfants pleuraient avec leur mère, et le bétail affamé, auquel il n'y avait rien à donner à manger, criait aussi. Les plus âgés des enfants ne jouaient pas, et, avec des yeux inquiets, regardaient les grandes personnes. La fontaine avait été souillée, évidemment exprès, de sorte qu'on y pouvait puiser. De même, des ordures avaient été répandues dans la mosquée, et le mulla et ses aides la nettoyaient. Personne ne parlait de la haine pour les Russes. Le sentiment qu'éprouvaient tous les Tchétchènes, des petits aux grands, était plus fort que la haine. Ce n'était pas la haine. C'était l'impossibilité de voir en ces chiens de Russes des hommes, et un tel dégoût, une telle horreur, un tel étonnement devant la cruauté stupide de ces créatures, que le désir de les exterminer, comme on a le désir d'exterminer les rats, les araignées venimeuses, les loups. Devant les habitants se posait ce problème. Demeurer ici et reconstruire par des efforts inouïs tout ce qui avait coûté tant de travail et qui avait été détruit si facilement, si stupidement, et s'attendre à chaque moment à voir se répéter la même chose, ou, malgré la loi religieuse et le sentiment de dégoût et de mépris qu'ils inspiraient, se soumettre aux Russes. Les vieillards se mirent à prier, puis décidèrent à l'unanimité d'envoyer des ambassadeurs à Chamil en lui demandant aide et protection. Et aussitôt, on se mit à reconstruire ce qui avait été détruit. Chapitre 18. Le lendemain de l'incursion, déjà assez tard dans la matinée, Butler sortit de la maison par le perron de derrière. Il avait l'intention de se promener et de respirer l'air avant le thé du matin, qu'il prenait ordinairement avec Petrov. Le soleil était déjà au-dessus des montagnes, et on avait mal aux yeux à regarder les cabanes blanches du côté droit de la rue qu'il éclairait brillamment. Mais en revanche, comme toujours, c'était agréable et reposant de regarder à gauche les montagnes sombres couvertes de forêts qui se succédaient et se dépassaient dans le lointain, et la chaîne mate des montagnes couvertes de neige qui, comme toujours, se laissait prendre pour des nuages. Butler regardait ces montagnes, respirait à plein poumon et se réjouissait de la conscience d'être bien portant et de vivre dans un si beau pays. Il se réjouissait aussi un peu de s'être conduit si bien la veille, dans le combat et à l'attaque, et surtout pendant la retraite, quand l'affaire était devenue assez chaude. Il se réjouissait aussi en se rappelant comment la veille, à leur retour de l'incursion, Marie, ou plutôt Marie Dmitrievna, la concubine de Petrov, les avait régalés. Et comment elle était simple et charmante avec tous, mais surtout, comme il lui semblait, tendre avec lui. Marie Dmitrievna, avec sa natte épaisse, ses larges épaules, sa forte poitrine et son sourire éclairant son visage bon, taché de rousseur, attirait involontairement Butler, célibataire jeune, vigoureux, et il lui semblait même ne pas lui être indifférent. Mais il trouvait que ce serait mal agir de sa part envers son bon et naïf camarade. Et il se tenait avec Marie Dmitrievna de la façon la plus simple et la plus respectueuse. Et il était content de cela. C'est à quoi il pensait en ce moment. Le bruit des sabots de plusieurs chevaux sur la route poudreuse, qu'il entendit venir devant lui, le tira de ses pensées. On dirait plusieurs cavaliers. Il leva la tête et aperçut, au bout de la rue, un groupe de cavaliers qui s'avançait au pas. Devant deux dizaines de cosaques, chevauchaient deux hommes, l'un en tcherkesska blanche, coiffé d'un haut bonnet à turban, l'autre un officier de l'armée russe, brun, au nez aquilin, avec beaucoup d'argenterie sur son uniforme et ses armes. Le cavalier au turban montait un superbe alezan, à la tête petite et aux très beaux yeux. L'officier chevauchait un grand et élégant cheval de Karabakh. Butler, amateur de chevaux, apprécia tout de suite les qualités rares du premier cheval et s'arrêta pour savoir quels étaient ses hommes. L'officier s'adressa à Butler. « La maison du commandant ?» demanda-t-il en trahissant par son accent une origine étrangère. Butler répondit affirmativement. « Et qui est celui-ci ? » demanda Butler en s'approchant de l'officier et lui indiquant des yeux l'homme au turban. « C'est Hadji Mourad. Il vient ici et logera chez le commandant, » dit-il. Butler avait entendu parler de Hadji Mourad et de son ralliement aux Russes, mais il ne s'attendait pas à le voir ici, dans cette petite forteresse. Hadji Mourad le regardait amicalement. « Bonjour, qu'est-ce qu'il dit ?» dit Butler, prononçant le salut tatar qu'il avait appris. « Saouboul !» répondit Hadji Mourad en secouant la tête. Il s'approcha de Butler, lui tendit la main aux deux doigts de laquelle était passée sa cravache. « Le commandant » demanda-t-il. « Non, le commandant est là. Je vais le prévenir, » dit Butler en s'adressant à l'officier. Et gravissant les marches du perron, il poussa la porte. Mais la porte du grand perron, comme disait Marie Dmitrievna, était fermée. Butler frappa. Ne recevant pas de réponse, il fit le tour et alla à l'autre entrée. Il appela son ordonnance, et de nouveau, personne ne lui ayant répondu, et n'ayant encore rencontré personne, il entra dans la cuisine. Marie Dmitrievna, rouge, un fichu sur la tête, les manches relevées au-dessus de ses bras blancs, gras, coupait de la pâte, aussi blanche que ses bras, pour faire des bouchées. « Où sont disparues les ordonnances ?» demanda Butler. « Elles sont allées se saouler, » répondit Marie Dmitrievna. « Mais que vous faut-il ? Il faut ouvrir la porte. Chez vous, devant la maison, il y a une bande de montagnards. Hadji Mourad est arrivé. Vous en inventez des histoires, dit Marie Dmitrievna en souriant. Je ne plaisante pas. Il est devant votre perron. Quoi? Quoi? Est-ce possible? Dit-elle. Mais pourquoi inventerai-je? Allez voir, il est près du perron. En voilà une histoire, fit Marie Dmitrievna, en abaissant ses manches et tâtant avec ses mains les épingles de sa lourde natte. Alors je vais aller éveiller Ivan Matveïevitch, dit-elle. Non, j'irai moi-même. Et toi, Bondarenko, va ouvrir la porte, ordonna Butler. C'est bien, dit Marie Dmitrievna, qui se remit de nouveau à sa cuisine. Apprenant que Hadji Mourad venait d'arriver, Ivan Matveïevitch, qui avait déjà entendu parler de lui à Groznaïa, ne s'en montra nullement étonné. Il se leva, roula une cigarette, l'alluma, et se mit à s'habiller en tout sautant bruyamment et maugréant contre les chefs qui lui envoyaient ce diable. Quand il fut habillé, il demanda à son ordonnance sa potion. L'ordonnance, sachant que c'était l'eau de vie qu'il appelait sa potion, lui en donna. « Il n'y a pas de pire saleté, grommela-t-il, après avoir bu un verre et mangé du pain noir. « Voilà, mon cher, j'ai bu du vin et j'ai mal à la tête. Eh bien, maintenant je suis prêt. » Il se rendit au salon où Butler avait déjà fait entrer Hadji Mourad et l'officier qui l'accompagnait. L'officier qui accompagnait Hadji Mourad remit à Ivan Matveïevitch l'ordre du commandant du flanc gauche de recevoir Hadji Mourad et de lui permettre de communiquer avec les montagnards par des émissaires, mais de ne pas le laisser sortir de la forteresse autrement qu'accompagné de Cosaques. Quand il eut achevé la lecture du papier, Ivan Matveïevitch regarda fixement Hadji Mourad et, de nouveau, se mit à se pénétrer du sens de cet ordre. Après avoir ainsi porté plusieurs fois ses regards du papier sur Hadji Mourad, il arrêta enfin les yeux sur celui-ci et lui dit « Kakshi lek lakshi, qu'il vive ici. Dis-lui que j'ai ordre de ne pas le laisser sortir et que ce qui est ordonné est sacré. Eh bien, Butler, qu'en penses-tu? Où le logerons-nous? Dans le bureau ?» Avant que Butler ait eu le temps de répondre, Marie Dmitrievna, qui était venue de la cuisine et se tenait dans la porte, s'adressa à Ivan Matveïevitch. « Pourquoi? Logez-le ici. Nous lui donnerons la chambre d'amis et le débarras. « Du moins, il sera sous les yeux, » dit-elle, et elle regarda Hadji Mourad. Mais leurs regards s'étant rencontrés, elle se détourna hâtivement. « Ma foi, je pense que Marie Dmitrievna a raison, » dit Butler. « Eh bien, va-t'en, les femmes n'ont rien à voir ici, » dit Ivan Matveïevitch en fronçant les sourcils. Pendant toute cette conversation, Hadji Mourad était assis, la main sur le manche de son poignard, et souriait avec un imperceptible mépris. Il prévint qu'il lui était égal de vivre ici ou là, que la seule chose nécessaire pour lui lui avait été accordée par le Sardar. C'était la possibilité de se mettre en rapport avec les montagnards, et qu'il désirait en conséquence qu'on le laissât pénétrer chez lui. Ivan Matveïevitch l'assura que cela serait fait, et il demanda à Butler de tenir compagnie à l'hôte pendant qu'on lui servirait une collation et préparerait les chambres, car lui-même irait au bureau écrire les papiers nécessaires et donner des ordres. Les relations de Hadji Mourad avec ses nouvelles connaissances se définirent dès le premier abord et d'une façon très nette. Aussitôt qu'il avait vu Ivan Matveïevitch, Hadji Mourad avait ressenti pour lui du dégoût et du mépris, et toujours il le prit de haut avec lui. Marie Dmitrievna, qui lui préparait et lui apportait ses aliments, lui plaisait particulièrement. En elle, lui plaisait la simplicité et surtout la beauté d'une population étrangère et l'attrait inconscient qu'elle éprouvait pour lui. Il tâchait de ne pas la regarder, de ne pas lui parler. Mais ses yeux, malgré lui, se tournaient vers elle et suivaient ses mouvements. Quant à Butler, dès leur première rencontre, il se lia amicalement avec lui. Il lui parlait beaucoup et avec plaisir, l'interrogeant sur sa vie, lui racontant la sienne et lui communiquant les nouvelles que lui apportaient les émissaires sur la situation de sa famille. Il allait même jusqu'à lui demander conseil. Les nouvelles que lui transmettaient les émissaires n'étaient pas bonnes. Il était dans la forteresse depuis 4 jours. Les émissaires étaient déjà venus 2 fois et 2 fois les nouvelles étaient mauvaises. Chapitre 19. Peu après le ralliement de Hadji Mourad aux Russes, sa famille fut amenée à l'aoul d'Argo, et tenu là sous bonne garde en attendant la décision de Chamil. Les femmes, la vieille Patimate et les deux épouses de Hadji Mourad et leurs 5 petits-enfants demeuraient dans la cabane du centenier Ibrahim Rachid. Quant au fils de Hadji Mourad, Youssouf, jeune adolescent de 18 ans, il était enfermé en prison, c'est-à-dire dans une sorte de fosse creusée dans le sol à plus d'une sagène de profondeur. Il se trouvait là avec 7 criminels qui attendaient comme lui que leur sort fût décidé. Aucune décision n'était encore prise parce que Chamil était absent. Il était en campagne contre les Russes. Le 6 janvier 1852, Chamil rentra chez lui, à Veden, après une bataille contre les Russes où, d'après ceux-ci, il avait été écrasé et obligé de s'enfuir. Chamil, au contraire, et tous ses murides, estimait avoir remporté la victoire et chassé les Russes. Dans cette bataille, Chamil lui-même, ce qui lui arrivait très rarement, avait tiré et, sabre au clair, avait voulu lancer son cheval sur les Russes, mais les murides qui l'accompagnaient l'avaient retenu. 2 d'entre eux avaient été tués ici même, aux côtés de Chamil. Il était midi quand Chamil, entouré d'un détachement de murides qui caracolait autour de lui, tirait du fusil et du pistolet et criait sans cesse « La Ilyak il Allah !» s'approcha de sa demeure. Toute la population du grand aoul d'Argo se trouvait dans la rue et sur les toits, attendant son souverain, et, en signe de triomphe, tirait aussi des coups de fusil et de pistolet. Chamil montait un cheval arabe blanc qui jouait gaiement de la bride à l'approche de la maison. Le harnachement du cheval était des plus simples, sans ornement d'or ni d'argent. Le bridon était en cuir rouge, finement travaillé, avec une petite rainure au milieu. L'étrier était de métal, et une couverture rouge passait sous la selle. L'imam portait une pelisse recouverte de drap brun, garnie de fourrure noire au col et aux manches. Sa taille longue et fine était serrée par une courroie noire à laquelle pendait un poignard. Il portait sur la tête un haut bonnet à fond plat avec un gland noir, entouré d'un turban blanc dont le bout retombait derrière le cou. Ses pieds étaient chaussés de sandales vertes et ses mollets entourés de guêtres noires bordées d'un simple ruban. En général, l'imam ne portait rien de brillant et sa haute personne droite, puissante, couverte d'habits sans ornement, entouré de murides dont les vêtements et les armes étaient ornés d'or et d'argent, produisait précisément l'impression qu'il désirait produire et dont il savait l'influence sur le peuple. Son visage pâle, encadré d'une barbe rousse, taillé, avec ses petits yeux dont il clignait toujours, était absolument immobile et semblait pétrifié. En traversant la houle, il sentait fixer sur lui des milliers d'yeux, mais les siens ne regardaient personne. Les femmes de Hadji Mourad, comme tous les habitants, sortirent de leur cabane sur la véranda pour voir la rentrée de l'imam. Seule la vieille Patimate, la mère de Hadji Mourad, ne sortit point. Elle demeurait assise sur le sol de la cabane, ses cheveux blancs, épars, entourant de ses longs bras ses genoux maigres. Clignant de ses yeux noirs brûlants, elle regardait les branches carbonisées dans l'âtre. Ainsi que son fils, elle avait toujours haï Chamil. Et maintenant, encore plus qu'autrefois, elle ne voulait pas le voir. Le fils de Hadji Mourad non plus ne vit point l'entrée triomphale de Chamil. Il entendait seulement, du fou de son trou noir, puant, les coups de fusil et les chants, et souffrait comme souffrent les jeunes gens pleins de vie, privés de liberté, qui sont enfermés dans un trou infect et ne voient que les hommes sales, flétris, enfermés avec eux, et qui, dans la plupart des cas, se haïssent les uns les autres. Maintenant, il enviait passionnément les hommes qui jouissaient de l'air et de la lumière, qui caracolaient librement sur de beaux chevaux autour du souverain, tiraient des coups de fusil et chantaient « La Ilyak il Allah ». Quand il eut traversé la houle, Chamil entra dans une grande cour qui menait à une cour intérieure dans laquelle se trouvait son harem. 2 lesguines armées rencontrèrent Chamil près de la porte ouverte de la première cour. Cette cour était pleine de gens. Il y avait là des hommes venus de loin pour affaires personnelles. Il y avait des quémandeurs. Il y avait aussi des gens appelés par Chamil lui-même pour être entendus et jugés. Quand Chamil parut, tous ceux qui se trouvaient dans la cour se levèrent et saluèrent respectueusement l'imam en croisant les mains sur leur poitrine. Quelques-uns se mirent à genoux et gardèrent cette pose pendant que Chamil traversait toute la première cour, de la porte extérieure à la porte intérieure. Chamil reconnaissait parmi les personnes qui l'attendaient beaucoup de gens qui lui étaient désagréables et beaucoup de quémandeurs ennuyeux qu'il fallait ménager, mais malgré cela, il gardait le même visage impassible en passant devant eux. Une fois parvenu dans la cour intérieure tout près de l'entrée, à gauche, il descendit de cheval devant le vestibule de sa demeure. Après les fatigues de la campagne, fatigues moins physiques que morales, car Chamil, bien qu'on tînt autour de lui sa campagne pour une victoire, savait que c'était un insuccès, que plusieurs aouls de Tchétchènes avaient été ruinés et incendiés, et que les Tchétchènes, peuple changeant et léger, hésitaient. Certains, surtout ceux qui se trouvaient les plus rapprochés des Russes, étaient déjà prêts à passer de leur côté. Tout cela était grave et exigeait des mesures. Mais, en ce moment, Chamil ne pouvait penser à rien. Maintenant, il ne désirait qu'une chose, le repos et le charme de la caresse d'une de ses femmes, sa favorite, Aminette, une jeune femme de 18 ans, aux yeux noirs et aux jambes agiles. Mais non seulement on ne pouvait penser à voir maintenant Aminette, qui était ici même, derrière la barrière qui séparait dans la cour intérieure la demeure des femmes de celle des hommes, Chamil était même convaincu qu'au moment où il descendait de son cheval, Aminette avec d'autres femmes regardait par une fente de la barrière. Non seulement on ne pouvait aller chez elle, mais même on ne pouvait tout simplement s'allonger sur les coussins et se reposer. Il fallait, avant tout, faire le rite exigé à midi, rite auquel il ne se sentait nullement disposé, mais qu'il ne pouvait négliger, vu sa situation de guide religieux du peuple. Négliger les rites lui était impossible, car leur accomplissement était pour lui aussi nécessaire que de s'alimenter chaque jour. Il fit donc l'ablution et la prière, et quand il eut terminé, il appela ceux qui l'attendaient. Son beau-père et maître se présenta le premier. C'était un vieillard haut de taille, aux cheveux blancs, la barbe blanche comme de la neige, et le visage frais et rosé. Il se nommait Djemal Edip. Après avoir prié, il se mit à interroger Chamil sur les événements de la campagne, puis lui raconta ce qui s'était passé dans les montagnes en son absence. Parmi les événements de toutes sortes, les meurtres par vengeance, les vols de bétail, les accusations d'inobservance des prescriptions de Tarikat, défense de fumer, de boire de l'alcool, Djemal Edip raconta que Hadji Mourad avait envoyé des hommes pour conduire sa famille chez les Russes. Mais on les avait déjoués et la famille avait été transférée à Véden, où elle se trouvait maintenant sous bonne garde en attendant la décision de l'imam. Dans la chambre voisine, celle des hôtes, des vieillards étaient rassemblés pour juger toutes ces affaires, et Djemal Edip conseilla à Chamil de terminer tout aujourd'hui afin de les laisser partir, car ils attendaient là depuis 3 jours. Après avoir mangé les mets que lui apporta Zaïdet, une femme noire, au nez pointu, le visage désagréable, qu'il n'aimait pas, mais qui était sa première épouse, Chamil passa dans la chambre du conseil. Les 6 hommes qui composaient son conseil, des vieillards à barbe blanche, grise, rousse, en haut bonnet, avec et sans turban, en béchmette et tcherkesskan neuf, seins de courroie dans lesquels étaient passés des poignards, se levèrent à sa rencontre. Chamil était d'une tête plus haut que tous. Tous, comme lui, levèrent leurs mains, les paumes en dehors, et, fermant les yeux, dirent une prière. Puis ils passèrent leurs mains sur leur visage, en les descendant jusqu'à l'extrémité de la barbe où elles se joignaient. Cela fait, tous s'assirent, Chamil au milieu, sur un coussin plus élevé, et la discussion des affaires commença. Celle concernant les accusations de crime était décidée d'après le chariat. 2 hommes étaient condamnés pour vol à avoir les mains coupées. 1 autre, pour meurtre, à avoir la tête tranchée. 3 étaient acquittés. Ensuite, on se mit à discuter les affaires militaires, principalement les mesures à prendre pour empêcher les Tchétchènes de se rallier aux Russes. Pour prévenir ce ralliement, Djemal Edip composa l'appel suivant. Je vous souhaite la paix éternelle en Dieu Tout-Puissant. J'ai entendu que les Russes vous flattent et vous appellent à la soumission. Ne les croyez pas, ne vous soumettez pas et attendez. Si vous n'êtes pas récompensé de cela dans cette vie, vous en recevrez la récompense dans la vie future. Rappelez-vous ce qui s'est passé auparavant, quand on vous a pris vos armes. Si Dieu, alors, en 1840, ne vous avait pas donné raison, vous seriez déjà soldat et vos femmes ne porteraient plus le pantalon et seraient souillées. D'après le passé, jugez l'avenir. Mieux vaut mourir dans les combats contre les Russes que de vivre avec les infidèles. Attendez, et moi, avec le Coran et l'épée, je viendrai chez vous et vous conduirai contre les Russes. Et maintenant, j'ordonne sévèrement de ne pas avoir non seulement l'intention, mais la pensée même de se soumettre aux Russes. » Chamil approuva cette proclamation et, l'ayant signée, résolut de l'envoyer dans tous les aouls. Après cela, la discussion vint sur le cas de Hadji Mourad. Cette affaire était très importante pour Chamil, bien qu'il ne voulût pas l'avouer. Il savait que si Hadji Mourad, avec son habileté, son courage, sa bravoure, avait été avec lui, il ne lui serait pas arrivé ce qui lui était arrivé maintenant à la Tchétchénie. Il était donc avantageux de se réconcilier avec Hadji Mourad et de profiter de nouveau de ses services. Mais si cela était impossible, en tout cas, on ne pouvait admettre qu'il donnât son aide aux Russes. C'est pourquoi, de toute façon, il fallait le faire venir et le tuer. Le moyen pour cela était soit d'envoyer un homme à Tiflis et le tuer là-bas, soit de l'appeler ici, et ici d'en finir avec lui. Pour le faire venir, il y avait un moyen. Sa famille, et surtout son fils, que Hadji Mourad, Chamil le savait, aimait passionnément. Il fallait donc agir par le fils. Quand les conseillers parlèrent de cela, Chamil ferma les yeux et se tut. Les conseillers savaient que quand Chamil fermait ainsi les yeux, c'était qu'il écoutait la voix du prophète qui lui indiquait ce qu'il fallait faire. Après un silence solennel de 5 minutes, Chamil ouvrit les yeux, puis en les clignant, dit « Amenez-moi le fils de Hadji Mourad. »« Il est ici, » dit Jemal Edip. En effet, Youssouf, le fils de Hadji Mourad, maigre, pâle, déguenillé, puant, mais toujours beau de corps et de visage, avec les mêmes yeux brûlants que sa grand-mère Patimate, se trouvait déjà dans la cour extérieure en attendant qu'on l'appelât. Youssouf ne partageait pas les sentiments de son père envers Chamil. Il ne connaissait pas tout le passé, ou, s'il le connaissait, ne l'ayant pas vécu, il ne comprenait pas pourquoi son père montrait une hostilité si persévérante envers Chamil. Pour lui qui ne désirait qu'une chose, continuer à mener cette vie facile, large, qu'étant le fils de Naïb, il menait à Kunzak, il était tout à fait inutile d'être ainsi l'ennemi juré de Chamil. Contrairement à son père, il admirait particulièrement Chamil et avait pour lui ce culte enthousiaste si répandu dans les montagnes. Maintenant, c'était avec un sentiment d'adoration craintive pour l'imam qu'il entrait dans la chambre. Il s'arrêta près de la porte et ses yeux rencontrèrent le regard obstiné des yeux clignotants de Chamil. Il resta un moment immobile, ensuite s'approcha de Chamil et baisa sa grande main blanche au long doigt. « Tu es le fils de Hadji Mourad ?»« Oui, Iman. »« Tu sais ce qu'il a fait ?»« Je le sais, Iman, et le regrette. »« Sais-tu écrire ?»« Je me préparais à être mula. »« Alors, écris à ton père que s'il retourne chez moi, tout de suite, avant Bayram, je lui pardonnerai et tout sera comme avant. »« Mais sinon, s'il reste chez les Russes, alors, » Chamil fronça sévèrement les sourcils, « ta grand-mère, ta mère, tous seront envoyés en différents aouls, et à toi, je te ferai couper la tête. » Pas un seul muscle du visage de Youssouf ne tressaillit. Il inclina la tête en signe qu'il avait compris les paroles de Chamil. « Écris cela et remets la lettre à mon envoyé. » Chamil se tut et longuement regarda Youssouf. « Écris que j'ai eu pitié de toi, que je ne te tuerai pas, mais que je te ferai crever les yeux comme je le fais à tous les traîtres. Va. » Youssouf semblait calme en présence de Chamil, mais quand on lui fait sortir de la chambre, il se jeta sur celui qui le conduisait, et, lui arrachant son poignard, tenta de se tuer. Mais on parvint à lui saisir les mains, et les lui ayant attachés, on le ramena dans la prison. Ce soir-là, une fois la prière dite, quand la nuit fut venue, Chamil, prenant sur lui une pelisse blanche, alla de l'autre côté de la barrière, dans cette partie de la cour où se trouvaient ses femmes, et il se dirigea vers la chambre d'Aminette. Mais Aminette ne s'y trouvait point. Elle était chez d'autres femmes. Alors Shamil, tâchant de n'être pas remarqué, se dissimula derrière la porte de la chambre en l'attendant. Mais Aminette était fâchée contre Shamil parce qu'il avait fait cadeau d'une étoffe de soie à Zaïdette et non à elle. Elle le vit entrer et sortir de sa chambre, la cherchant, et exprès ne retourna pas chez elle. Longtemps, elle resta cachée près de la porte de la chambre de Zaïdette, et, riant doucement, elle regardait la silhouette blanche de Shamil qui tantôt entrait, tantôt sortait de la chambre. L'ayant attendu en vain, Shamil retourna chez lui pour la prière de minuit.